les divisions en partie, laisse apparaître les divergences existant d'un pays à l'autre.
Programme aujourd'hui, les rubriques habituelles, petite histoire de la poésie, les mouvements poétiques. Aujourd'hui, nous parlerons des troubadours, le portrait d'un poète, aujourd'hui Pierre de Ronsard. Nous allons mettre en avant une chanson, le Métèque de Georges Moustaki. Il y aura bien sûr l'actualité de la poésie. Puis un extrait d'un entretien avec Jacques Prévert. La lecture de quelques poèmes. Nous terminerons aussi par une rubrique « Ça ressemble à de la poésie » avec des paroles enregistrées au hasard dans la rue. Bonne poésie à toutes et à tous. Histoire de la poésie. Nous nous étions arrêtés lors de la dernière émission au temps ancien de la poésie. À cette époque, la poésie est encore très liée à la religion. Les érudits sont souvent des moines. Ils écrivent et transcrivent à des fins d'historiographie ou pour des raisons politiques. Nous sommes au XIe siècle. Une vie de saint Alexis en 125 strophes de 5 décasyllabes, écrite par un chanoine nommé Thibaut, nous est restée. Sous l'escalier où il a son grabat, on le nourrit des restes du repas. Il y a aussi la vie de saint Thomas Becket, rimée par Guerne de Pont-Sainte-Maxence, et oui, les noms sont bizarres à cette époque, en vers de 12 pieds. C'est la première fois qu'une épopée s'écrit dans le même temps que les événements qui l'inspirent, les démêlés de Thomas avec Henri II, Plantagenet. Nous sommes dans une histoire lointaine, la poésie a commencé il y a longtemps. C'est aussi la première fois que la poésie romane prend une telle ampleur. Alors saint Thomas voit que son martyr est proche, joint ses mains sur sa face et s'en remet à Dieu. Et oui, on parle encore beaucoup de Dieu au début de la poésie. C'est l'époque de la séparation linguistique de la Gaule en deux parlers, Louis et Locke, dont la frontière se situait bien plus au nord qu'aujourd'hui, vers Poitiers. Les chansons de gestes apparaissent au XIe siècle et XIIe siècle. Il s'agit de récits historiques versifiés, inspirés de faits réels que l'imagination populaire et celle des trouvères et troubadours transfèrent sur un plan légendaire. Les invasions sarrasines ont commencé au 8e siècle, arrêtées par Charles Martel. La chanson de Roland est destinée à être chantée. Elle fut composée vraisemblablement entre 1090 et 1130. C'est un manuscrit d'Oxford qui a recueilli le texte. En France, il y a une étrange tourmente, c'est un orage de tonnerre et de vent. Beaucoup disent « c'est la fin de tout, la fin du monde qui se présente à nous, ils ne le savent et ne disent pas vrai, c'est le grand deuil pour la mort de Roland ». Dans les chansons de gestes, il y a celles qui ont pour thème la vie de Charlemagne et ses barons et les récits en vers qui s'inspirent de l'Antiquité. La conquête de l'Angleterre par les Normands fait entrer les légendes des Cornouailles ou du pays de Galles et provoque la naissance d'une littérature anglo-normande. Béroule, qui est normand, Thomas, qui est anglais, Marie de France et Chrétien de Troyes écrivent dans la même langue. Les romans consacrés à la légende du Graal sont liés à ceux de la Table Ronde. Chrétien de Troyes mourra avant d'avoir achevé son Perceval ou le Conte du Graal. La légende du roi Arthur, Tristan et Iseut, les fables de Marie de France dont on a parlé dans la première émission, témoignent d'une époque qui cultive les légendes dorées. On aime les légendes. Il s'agit de transformer le réel en un imaginaire magique. C'est l'essence même de la poésie.
Trois petites notes de musique ont plié boutique au creux du souvenir. C'en est fini de leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Mais un jour sans crier gare, elles vous reviennent en mémoire. Toi, tu voulais oublier un petit air galvaudé dans les rues de l'été. Toi, tu n'oublieras jamais une rue, un été, une fille qui fredonnait. La 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 la, je vous aime chanter la rengaine, la mon amour. Des paroles sans rien de sublime, pourvu que la rime amène toujours une romance de vacances qui lancinante vous relance. Vrai, elle était si jolie, si fraîche épanouie, et tu ne l'as pas cueillie. Vrai, pour son premier frisson, elle t'offrait une chanson à prendre à l'unisson. La 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 la, tout rêve rime avec sa chèvre, le tien ne rime à rien. Fini avant qu'il commence, le temps d'une danse, l'espace d'un refrain. Trois petites notes de musique qui vous font la nique du fond des souvenirs. Lève un cruel rideau de scène sur mille et une peines qui ne veulent pas mourir.
Les mouvements poétiques. Au tout début, il y eut les troubadours. Un troubadour est un compositeur, poète et musicien médiéval de Languedoc qui faisait interpréter ses œuvres par des jongleurs ou des ménestrels. Les femmes sont appelées des troubadouresses. L'équivalent du troubadour en Pays d'Oil est le trouvère. Le mouvement troubadour a commencé vers la fin du XIe siècle en Occitanie. au sein de la haute noblesse occitane. Puis il s'est répandu par la suite dans d'autres couches sociales et s'est étendu au nord de l'Italie et de l'Espagne. Les troubadours ont participé activement à la vie sociale, politique et religieuse de la société de l'époque. Sous l'influence des troubadours, des mouvements du même type se sont levés partout en Europe. Après la période classique, vers le XIIIe siècle, et une résurgence au milieu de ce siècle, l'art des troubadours a décliné au XIVe siècle, puis a finalement disparu à l'époque de la peste noire, de 1347 à 1352. Les thèmes abordés dans les chansons des troubadours portent principalement sur la chevalerie et l'amour courtois. L'œuvre elle-même des troubadours a été analysée par des philologues et les musicologues à partir du XIXe siècle. Les thèmes les plus connus sont épiques avec la vie des chevaliers et lyriques avec la poésie courtoise. Ils sont aussi très souvent satiriques et comiques, moraux ou religieux et même juridiques ou politiques.
Ainsi que l'ont fait nos ancêtres, nos petits-enfants partiront. C'est dans l'espoir de se connaître qu'on tourne en rond. On fait des pas, des mots, des gestes, on chante pour cacher sa peur. On part pour apprendre qu'on reste au bout du cœur. Cœur qui fait tourner la terre, qui bat pour rencontrer les siens, c'est le musicien solitaire le plus ancien. Il cherche encore la mélodie qui mettrait les cœurs en accord et l'âme tout en harmonie avec le deviendront des ancêtres. Je vois déjà nos descendants savoir enfin naître et renaître aux mains du temps. Le chant est dans la poésie, ainsi que les fruits dans les fleurs et les vendanges de la vie au bout du cœur. Ainsi que l'ont fait vos ancêtres, vos petits-enfants partiront. C'est dans l'espoir de se connaître qu'on tourne en rond. On fait des pas, des mots, des gestes, on chante pour cacher sa peur. On part pour apprendre qu'on reste au bout du cœur. Au bout du
Portrait de poète. Pierre de Ronsard, né en septembre 1524 au château de la Poissonnière, près du village de Couture-sur-Loire, en Vendômois, est mort le 27 décembre 1585 au prieuré Sainte-Côme de Tours, est un des poètes français les plus importants du XVIe siècle. Prince des poètes et poète des princes, Pierre de Ronsard est une figure majeure de la littérature poétique de la Renaissance, auteur d'une œuvre vaste qui, en plus de 30 ans, s'est portée aussi bien sur la poésie engagée et officielle dans le contexte des guerres de religion, avec les hymnes et les discours, en 1555 jusqu'en 1564, que sur l'épopée avec la Franciade ou la poésie lyrique avec les recueils, les odes et des amours, les amours de Cassandre, continuation des amours, sonnet pour Hélène. Imitant les auteurs antiques, Ronsard emploie d'abord les formes de l'ode, mignonne, allons voir si la rose, et de l'hymne, considérées comme des formes majeures, mais il utilisera de plus en plus le sonnet transplanté en France par Clément Marot en 1536, en employant le décasyllabe « mon Dieu, que ma maîtresse est belle ».« Mestresse », on disait « mestresse » à cette époque. Les amours, où je vous envoie un bouquet, continuation des amours. Comme le maître moderne de l'Alexandrin, comme on voit sur la branche, second livre des amours, ou quand vous serez bien vieille, sonné pour Hélène. Pierre de Ronsard, né au château de la Poissonnière en 1524, donc nous l'avons dit, il est le quatrième enfant de Louis de Ronsard, chevalier de la Poissonnière, maître d'hôtel du Dauphin, et de Jeanne Chaudrier, veuve des Roches. Il a une sœur, Louise, et deux frères, Claude et Charles. Son père, chevalier à 21 ans, ayant participé aux guerres d'Italie, est un homme féru de poésie et admirateur de Bayard, le chevalier Bayard. Selon Ronsard, sa famille serait originaire d'Europe de l'Est, près du Danube. Ce fait rapporté par ses premiers biographes est aujourd'hui contesté. Pierre de Ronsard passe son enfance au château, privé de son père de ses 2 à ses 6 ans, car de 1526 à 1530, Louis de Ronsard est en Espagne avec les enfants de François Ier, otage de Charles Quint. Voyez, nous sommes dans le monde de l'aristocratie. Dès l'âge de 5 ans, Pierre de Ronsard est confié à un précepteur, peut-être son oncle, l'archidiacre de Navarre, Jean Ronsard, qui l'initie aux auteurs latins et lui lèguera à sa mort sa bibliothèque. Son père le destine à la carrière de robe et l'envoie étudier en octobre 1533 au collège de Navarre, où il ne restera que 6 mois. Son père tente alors de l'introduire à la cour, d'abord en tant que page auprès du dauphin François, puis à la mort de celui-ci en août 1536 auprès de son frère Charles, duc d'Orléans. Quand Madeleine de France épouse le roi Jacques V d'Écosse en 1537, Ronsard est attaché au service de Madeleine, puis au service du roi Jacques à la mort de celle-ci, et passe 3 années tantôt en Écosse, tantôt à Londres, tantôt en France, tantôt en Flandre, dans la suite de l'ambassadeur Claude Dumière, seigneur de Lassigny. C'est durant cette période qu'il commence à s'intéresser à la poésie, encouragé par un écuyer, Paul Duc, qui lui fait découvrir des poètes latins comme Virgile et Horace. En 1539, il est de retour en France au service du duc d'Orléans. C'est probablement pour servir Dieu et d'oreille à Charles qu'il suit Lazare de Beff, le père de son futur collègue de la Pléiade et compagnon à cette occasion, Jean-Antoine de Beff, lors de son ambassade auprès des princes allemands. Cette carrière diplomatique prometteuse est cependant subitement interrompue. Une maladie suivant d'une longue convalescence à la Poissonnière le laisse à moitié sourd. Pierre de Ronsard décide alors de se consacrer à l'étude. Une carrière de robe est à nouveau envisagée et en mars 1543, Ronsard est tonsuré par l'évêque du Mans mais reste au service de Charles d'Orléans, puis à la mort de celui-ci au service du dauphin Henri. Vous voyez qu'au début de la poésie était très liée à la religion puisque de nombreux poètes étaient plus ou moins des moines. Durant sa, ou en tout cas servait dans les offices religieux. Durant sa convalescence déjà, Ronsard a complété sa formation par la lecture des auteurs français Jean Lemaire de Belge, Guillaume Coquillard et Clément Marot, et compose quelques odes horaciques qu'il présente à Jacques Pelletier. Son père meurt le 6 juin 1544 et c'est sous la houlette de l'helléniste Jean Dorat, précepteur de Jean-Antoine de Beff, qu'il se familiarise avec les auteurs grecs quand ses obligations de cours le lui permettent, soit au collège de Coqueret, soit directement auprès de Dorat. Il étudie également les procédés littéraires, la littérature italienne, Dante, Pétrarque, Boccace, se forme à l'alexandrin, à la mythologie et développe un goût pour l'érudition qui lui fait considérer l'école marotique comme vulgaire.
Qu'est fait les voyages, c'est les voyages qui m'ont fait. Entre passeurs et passages, c'est le métier qui me plaît. Voir passer les caravanes, mélanger l'encre et le sang, écouter près des chamans les origines du temps. Moi qui ai fait les voyages, c'est les voyages qui m'ont fait. Entre passeurs et passages, c'est le métier qui me plaît. Dans le langage tambour, il y a des dialectes inconnus pour dessiner les contours d'une cité disparue.
qu'aient fait les voyages. C'est les voyages qui m'ont fait entre passeurs et passages. C'est le métier qui me plaît. Faut chercher dans les racines le goût subtil des fruits. Et même dans les usines, la mécanique des mélodies. C'est les voyages qui m'ont fait entre passeurs et passages. C'est le métier qui me plaît. Alors jouons sur la rime entre le fleuve et la mer. Un voyageur anonyme m'attendra pour prendre un verre. Trafiquant de métaphores, insurgé de l'univers, passager du mal d'aurore entre la mort et la mer. C'est les voyages qui m'ont fait entre passeurs et passages. C'est le métier qui me plaît. Pas moi qui ai fait les voyages. C'est les voyages qui m'ont fait entre passeurs et passages. C'est le métier qui me plaît.
Nous poursuivons donc notre portrait de Ronsard au collège de Coqueray, ou dans la maison de Nicolas Hélan ou Jean Brinon se regroupent les futurs poètes qui vont constituer la brigade, plus tard appelée Pléiade. La rencontre entre Ronsard et Joachim du Bellay date de 1547. Cette même année, Ronsard voit une de ses odes horaciques publiées dans les œuvres poétiques de Jacques Pelletier. Autour de Ronsard, du Bellay, du Beff et d'Horace se rassemblent, entre autres, Jean Martin, Jacques Pelletier, Claude de Lignery, Pierre des Mireurs, Julien Pécat, Bertrand Bergier, Pontus de Thiard, Guillaume des Hôtels, Étienne Jodel, Jean de la Péruse, puis Rémy Bello. Vous voyez que nous n'avons pas retenu tous ces noms de poètes, on a retenu essentiellement Ronsard, du Bellay. Voilà. Ce nouveau mouvement littéraire a pour ambition d'imiter et surpasser les Italiens, Pétrarque, Dante, Bimbo, donc de grandes ambitions, en créant une littérature, une langue française capable d'égaler les poètes latins ou grecs. En 1548, la publication par Thomas Sébillet de son art poétique, jugé insuffisamment novateur par les poètes de la brigade, précipite la publication de leur manifeste. Joachim du Bellay publie en 1549 « Défense et illustration de la langue française » dans lequel il expose les principes de la Pléiade et éreinte les poètes alors en vogue, Marot, Sébillet et surtout Saint-Gelais. En 1549, Ronsard publie quelques plaquettes, dont Hymne de France, mais sa première grande œuvre est ses odes, dont les quatre premiers livres paraissent en 1550 et dont la préface est une attaque virulente de ceux qu'il qualifie de poétastres et schiamaches. Son recueil est mal perçu à la cour où domine l'école marotique, mais reçoit des critiques enthousiastes de ses admirateurs qui le qualifient de Pindare français, au point d'ailleurs que son contemporain Jean Dorat créera avec son nom l'anagramme Rose de Pindare. En 1554, l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse le récompense d'une églantine pour son excellence et rare savoir et pour l'honneur et ornement qu'il avait procuré à la poésie française. Et l'année suivante, ce prix est transformé en une minerve d'argent d'un grand prix. En 1555, Ronsard sort une continuation des Amours et une nouvelle continuation des Amours l'année suivante. Pour remercier Jean de Brinon, son mécène, Ronsard en fait le héros des Mélanges de 1555 qu'il lui dédicace, puis il se lance dans les hymnes, dont l'hymne de l'Hercule chrétien, adressé au cardinal de Châtillon, archevêque de Toulouse, qu'il a toujours encouragé. Ses succès littéraires lui apportent la gloire, mais il lui faut aussi trouver de quoi survivre. Ronsard dépense une partie de son énergie à tenter d'acquérir des prieurés et des cures dont les bénéfices lui assuraient un revenu décent et à trouver des protecteurs. Lorsque les guerres de religion éclatent, il prend le parti du roi et de l'Église catholique, s'éloignant de ses anciens amis de sympathie protestants. Ces dernières années sont marquées par la perte de beaucoup de ses amis, Rémi Bello, Christophe de Thou, François d'Alençon, et par la maladie. Il publie ses sonnets pour Hélène. Voici un exemple de la poésie de Ronsard. Je n'ai plus que les os. Je n'ai plus que les os. Un squelette, je semble, décharné, dénervé, démusclé, dépulpé, que le trait de la mort sans pardon a frappé. Je n'ose voir mes bras, que de peur je ne tremble. Apollon et son fils, deux grands maîtres ensemble, ne me sauraient guérir. Leur métier m'a trompé. Adieu, plaisant soleil, mon œil est étoupé. Mon corps s'en va descendre où tout se désassemble. Quel ami, me voyant en ce point dépouillé, ne remporte au logis un œil triste et mouillé, me consolant au lit et me baisant la face, en essuyant mes yeux par la mort endormie. Adieu, chers compagnons, adieu, mes chers amis. Je m'en vais le premier vous préparer la place. C'était un poème de Pierre de Ronsard.
Elle chante un peu voilée, souple comme le vent. C'est une mélodie sans parole, hors du temps. Elle chante les yeux fermés, en fléchissant le cou, plongée dans un pays très éloigné de vous.
Ta canta, ta pensa na minha terra. Sum ta fcha oi, e pano lá, es distância. Na voz tinha saudade, ta leva nos humanidade. Pa todo povo sofredor, pa todo gente que crê amor.
Mas d'où lui vient cette infinie douceur, cette sensualité mélangée de pudeur, ces belles mains quand elles se posent sur une épaule ou sur mon bras, tout se métamorphose, on oublie la mort, on s'en va. Chante la terre rouge, la sèche, la stérile. Elle chante les hommes proscrits, les centaines dans les villes, les jeunes filles en noir et tous les enfants dans les rues. Les longues années sans pluie et ceux qu'on n'a jamais revus.
Est-ce de sourire forma de lutar contra a dureza de uma vida magoada. Triste tristeza da pra festa, não tá lembrar pra limpar nos dor, nos alma e coração, pra afugentar toda maldição.
Mas d'où lui vient cet infini douceur, cette sensualité mélangée de pudeur, ses belles mains quand elles se posent sur une épaule ou sur mon bras, tout se métamorphose, on oublie la mort, on s'en va.
T'as canté, t'as pensé na minha terra, son taf tchaoui é pra anular essa distância.
Sa voix qui était fluide d'abord se brise et se renforce. Elle est la vie, la mort, la fragilité et la force. Elle est la vie, la mort, la fragilité et la force.
Vous l'avez vu, la poésie est dans la chanson, surtout avec des belles chansons-poèmes comme celle que nous chante Gilles Vigneault ou Bernard Lavilliers. Le Métèque aussi est une chanson sous forme de poésie, on pourrait le dire. Une chanson française écrite, composée et créée par Georges Moustaki en 1969. Elle est parue sur l'album du même nom et en single, l'album Le Métèque. Cette chanson l'a fait connaître du grand public, plus de 600 000 exemplaires vendus en 45 tours, même s'il était déjà reconnu dans le milieu de la chanson comme parolier et musicien.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents, avec mes yeux tout délavés qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent, avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins, avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu sans jamais assouvir sa faim, avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond, avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons, avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire, avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire, avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents, je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir.
La chanson est un portrait partiellement autobiographique d'un étranger, un peu doux rêveur, sans attache. Moustaki, d'origine grecque, se décrit lui-même comme un métèque, fustigeant aussi un terme utilisé pour désigner les étrangers, un juif errant, pâtre grec, cheveux aux quatre vents. La chanson a été traduite dans plusieurs langues, en particulier la version italienne par Bruno Lozzi, et a atteint la première place du hit-parade italien. Le titre a été publié en single pour la première fois en 1969 dans les 45 tours Lo Straniero, Giuseppe, avec l'arrangement d'Alain Goraguer. La même année, la chanson remporte la Mostra Internationale di Musica Leggera, Gondola d'Oro à Venise.
Pour que la feuille aille au plus haut, chante le travail des racines, des fleurs aux fruits qu'on imagine. Il faut de l'eau, il faut de l'eau. Pour que la grive ou le pivet trouve pour la saison nouvelle où cacher ses œufs et ses ailes, il faut de l'air, il faut de l'air. Pour qu'après les adieux du corps, l'âme se fasse arbre qui vole. Pour que la vie ait la parole, il faut la mort, il faut la mort. Pour que dans le ruisseau des jours, au bout du cœur fleurisse l'âme, pour que l'homme apprenne la femme, il faut l'amour, il faut l'amour.
Actualité de la poésie. Le numéro de la quinzaine littéraire du mois de septembre 2024 évoque deux poètes, Guillaume Métayer pour Main Positive, édité à la Rumeur Libre, et Isabelle Baladine-Howald pour M, édité chez Isabelle Sauvage. Dans le premier livre, celui de Guillaume Métayer, il y a 91 poèmes en prose. La quinzaine reconnaît que les poèmes peuvent être hermétiques. Selon la quinzaine, il n'y a que deux types d'hermétisme. Ça, c'est intéressant quand on lit un poème. Le bon et le mauvais. Le bon hermétisme et le mauvais hermétisme. Tout ça pour dire qu'un poème n'est pas fait forcément pour être compris. On est loin des dissections de poèmes à l'école. Mais senti, un poème doit être senti avant tout. La peur se change en sucre. Le sucre se change en peur. L'alcool se change en sucre. La peur se change en peur. C'est un extrait de ce livre. Dans le livre d'Isabelle Baladine-Howald, une lettre M se détache comme dans M le maudit de Fritz Lang. M et pourquoi pas P ou O. M comme mère pour un livre qui ressuscite les contes pour enfants. M est une vieille mère qui veut survivre à tous, enterrer tous pour suggérer la plainte de son immense et faux deuil. Comprenne qui pourra. Les mots dépassent la pensée. On est bien en poésie. Un livre est sorti également en novembre 2024 que je trouve original. Il nous fait découvrir une poétesse méconnue, Marie Noël. C'est une poétesse plutôt catholique. Le livre s'intitule « La poétesse et le général ». Alors pourquoi la poétesse et le général ? Parce qu'il s'agit du général, et il n'y en a qu'un en France. Quand on parle de général, c'est le général de Gaulle. Et la poétesse Marie Noël a entretenu une relation particulière avec le général de Gaulle. Et ce livre, vous pouvez le trouver en librairie. Elle a tissé donc une relation un peu particulière avec le général de Gaulle. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est les relations entre la poésie et la politique, et l'histoire aussi. Ce qui rend le livre intéressant, c'est qu'il montre que la poésie peut inspirer les acteurs de l'histoire. C'est une source d'inspiration pour l'action. Et puis le poète Jacques Roubaud est décédé en décembre 2024, donc récemment. Il avait publié un livre poétique, Études, qui est de nouveau publié aux éditions Nous. Jacques Roubaud était aussi mathématicien. Dans ce livre, il rassemble des remarques sur la poésie, la mémoire, les nombres, le rythme, la contrainte, la forme. On peut lire le livre par petits bouts. C'est en quelque sorte un traité théorique sur la poésie. Donc c'est très intellectuel. Cela nous rappellera nos cours de français. C'était pour l'actualité de la poésie de ce mois. Alors avant de commencer la lecture de poèmes, je vous propose d'écouter un entretien avec Jacques Prévert qui s'exprime notamment sur la télévision, mais pas seulement.
Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose d'intéressant dernièrement sur la télévision. C'est Henri Salvador, c'est un chanteur. On ne dit pas ça d'habitude. On l'a dit, c'est très drôle. Alors que les gens disent qu'il y a des milliers de spectateurs qui vous voient, qui vous entendent. On a dit, moi ce qui me plaît dans la télévision, c'est que c'est le seul spectacle qui puisse être vu par une seule personne. Il n'y a que lui qui a pensé, et c'est extraordinaire. Une personne ou trois, quatre personnes. On ne voit pas quelqu'un loin un théâtre, ou une vieille femme toute seule dans une montagne, louer un théâtre et installer. On ne le louerait pas, hein, toute seule. Et c'est ça qui est intéressant. Hein?
Vous qui avez fait du cinéma, est-ce que vous vous intéressez personnellement à la télévision comme phénomène? Ouais. D'abord, est-ce que vous êtes un bon spectateur?
C'est-à-dire, moi, je trouve la télévision... Je ne connais pas la télévision canadienne, mais si je parle de la télévision française, je dis que comme tous les nouveaux, comme le cinéma, comme la radio, la télévision est un moyen d'expression. Mais comme c'est le plus fort, il devient très facilement un moyen d'oppression. Alors, il faudrait le rendre plus libre. C'est difficile.
Est-ce que la télévision française vous paraît prêter suffisamment d'importance à la poésie?
Bon, ça, je vous dirais une chose. C'est pas une chose que... Ce que la télévision peut penser de la poésie ou prêter attention à la poésie, ça, c'est... Il faut plutôt demander à Garcia Lorca ou Henri Michaux, ce qu'ils pensent de la poésie. Ils disaient qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Ils n'en savaient rien, exactement. Parce que c'est un mot qu'on met à toutes les sauces, vous comprenez, par exemple. Alors ça, c'est pas intéressant. Vous comprenez, et puis c'est un mot qui devient la mode. En poésie, avant, un poète, on disait, c'est un rêveur. Hein, comme on disait dans un philosophe, on disait, oh, un philosophe, c'est un type qui s'en fait pas. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Le poète, ça court les rues, et tout le monde court les rues, et... Je ne vois pas pourquoi il y aurait une importance capitale de ce qu'on appelle la poésie, puisqu'elle est partout. Elle est aussi bien dans un film que n'importe où, et pas spécialement écrite. C'est-à-dire un type qui écrit des poèmes, quelqu'un qui écrit des poèmes, des fois c'est beaucoup moins bien qu'un type qui est saoul comme une vache et qui dans la rue des choses extraordinaires. Mais ça dépend, vous comprenez. Alors, les gens aiment telle poésie, ou pas, où on dit vous êtes poète populaire, ou vous êtes grand poète, ou petit poète, c'est toujours la grandeur, hein. Alors, la grandeur, hein. Moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup, moi, je n'ai pas fait exprès, moi, de faire des poèmes. Les gens disent c'est pas un poète, l'autre dit c'est un poète, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, exactement?
Qu'est-ce que vous dites, vous, de vous-même?
Moi, je pense de moi-même. Plutôt le plus grand bien. C'est marrant, d'ailleurs. Hein? Naturellement, j'aime mieux les femmes que les hommes. Évidemment, les gens disent, ah oui, évidemment, j'aime mieux les femmes, vous n'êtes pas... Alors, ça recommence avec les plaisanteries sur l'homosexualité, qui est vieille comme le monde, d'ailleurs, ou jeune comme le monde. Hein? Et alors, non, je dis, en général, les femmes, je connais des femmes que j'ai toujours préférées à moi. M'ont toujours étonné, toujours intelligente. Je trouve qu'elles ont beaucoup d'humour. Les hommes en parlent. Mais... Et... J'ai bien connu quelqu'un de mieux que quelques femmes. Hein? Mais parmi les hommes, je crois que je me préfère.
Et comment vous voyez-vous en tant que poète? Vous
non, je m'en
vous...
fous, moi, ça, je ne me vois pas du tout comme ça. Je sais, comme vous vous demandez comment je vois les gens qui me regardent, je ne les vois pas. Moi, je vous regarde, vous, téléspectateurs. Hein? J'ignore comment vous me voyez, si ça vous intéresse, ou qu'est-ce que vous pensez de ce que je vous dis. Personnellement, je suis très poli, je m'en moque éperdument.
Voilà, c'était Jacques Prévert. Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Nous sommes bien, nous écoutons des poèmes et nous sommes bien en poésie. Correspondance de Charles Baudelaire. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers, comme de longs échos qui de loin se confondent, dans une ténébreuse et profonde unité. Vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais, comme des chairs d'enfants, doux comme les hauts-bois, verts comme les prairies et d'autres, corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens. Charles Baudelaire, les fleurs du mal. Quand ton col de couleur rose se donne à mon embrassement et ton œil languit doucement d'une paupière à demi-close, mon âme se fond du désir dont elle est ardemment pleine et ne peut souffrir à grand-peine la force d'un si grand plaisir. Puis quand s'approche de la tienne ma lèvre et que si près je suis que la fleur recueillir je puis, de ton haleine ambroisienne, quand le soupir de ces odeurs où nos deux langues qui se jouent, moitement folâtres et nous, éventent mes douces ardeurs, Il me semble être assis à table avec les dieux, tant je suis heureux et boire à longs traits et savoureux leur doux breuvage délectable, si le bien qui au plus grand bien est plus prochain, prendre on me laisse. Pourquoi me permets-tu, maîtresse, qu'encore le plus grand soit mien? C'était un poème de Joachim Dubélé. Écoutez, ça ressemble à de la poésie.
Ça peut être, à votre avis, un show à la télévision?
Ah ben, ça peut se produire par un fil à la masse, un court-circuit, une ampoule qui chauffe, des résistances, tout un tas de trucs que je ne connais pas, parce qu'il y a des machines techniques là-dedans que mes qualités ne me permettent pas de...
Le press-book, qu'est-ce que c'est?
Pour moi, c'est un serre-livre.
Et qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Parce que book, c'est livre en anglais, et press, serre-livre. Pour moi, ça veut dire ça.
Qu'est-ce que ça peut être, à votre avis, un show à la télévision?
Ça peut se produire par un fil à la masse, un court-circuit, une ampoule qui chauffe, des résistances, tout un tas de trucs que je ne connais pas, parce qu'il y a des machines techniques là-dedans que mes qualités ne me permettent pas de...
Le press-book.
Eh oui, les mots, toujours les mots, ce sont quand même des poésies. La poésie est partout, dans le langage surtout. Imitation d'un poète écossais. Oui, je me plais, Clarisse, à la saison tardive, image de cet âge où le temps m'a conduit. Du vent à tes foyers, j'aime la voix plaintive durant la longue nuit. Philomèle a cherché des climats plus propices. Prognée fuit à son tour, sans en être attristé, des beaux jours près de toi, retrouvant les délices. Ton vieux signe est resté. Viens dans ces champs déserts où la bise murmure, admirer le soleil qui s'éloigne de nous. Viens goûter de ces bois qui perdent leur parure, le charme triste et doux. Des feux que le vent détache avec ses ailes, voltige dans les airs, le défaillant essaim. Ah, puissais-je en mourant me reposer comme elle, un moment sur ton sein. Pas les dernières fleurs qui survit à Pomone, la veilleuse en ses prés peint mon sort et ma foi. De mes ans écoulés, tu fais fleurir l'automne et je veille pour toi. C'est un poème de François René de Chateaubriand.
Thank you.
Si vous croyez que je vais dire qui j'ose aimer, je ne saurais, pour un empire, vous la nommer. Nous allons chanter à la ronde, si vous voulez, que je l'adore et qu'elle est blonde comme les blés. Je fais ce que sa fantaisie veut m'ordonner, et je puis, s'il lui faut ma vie, la lui donner. Du mal qu'une amour ignorée nous fait souffrir, j'emporte l'âme déchirée jusqu'à mourir. Mais j'aime trop pour que je dis qui j'ose aimer, et je veux mourir pour m'amie sans la nommer. C'était un poème extrait des Poésies Nouvelles, 1836, Alfred de Musset. Et la mer et l'amour. Et la mer et l'amour ont la mer pour partage. Et la mer est amère et l'amour est amère. L'on s'abîme en l'amour aussi bien qu'en la mer, car la mer et l'amour ne sont point sans orage. Celui qui craint les eaux, qu'il demeure au rivage. Celui qui craint les maux qu'on souffre pour aimer, qu'il ne se laisse pas à l'amour enflammer. Et tous deux, ils seront sans hasard de naufrage. La mer de l'amour eut la mer pour berceau. Le feu sort de l'amour, sa mère sort de l'eau. Mais l'eau, contre ce feu, ne peut fournir des armes. Si l'eau pouvait éteindre un brasier amoureux, ton amour qui me brûle est si fort douloureux que j'eusse éteint son feu de la mer de mes larmes. Une poésie extraite des poésies écrites en 1620 par Pierre de Marbeuf. Voilà, le temps des poètes est terminé. Je vous donne rendez-vous au mois de mars pour une autre émission, Le temps des poètes. Thank you.
chanterons le temps des cerises et guérosignol et merle moka seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moka. Mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va de pays en rêvant, dépendant d'oreilles. Cerises d'amour, aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court, le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. Le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
Oui, faites-nous des chansons et faites-nous les belles. Oui, faites-nous des chansons, nous les fredonnerons. Oui, faites-nous des chansons pour nous donner des ailes. Oui, faites-nous des chansons, nous nous envolerons. Si vous envolez, braves gens, aurez bien de la chance. Vous en aurez pas pour votre argent, pas pour votre espérance. Arrive que le chansonneur ait plus rien dans les poches, plus une miette de bonheur, plus une simple croche. Arrive